nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Souvent, la journée, il sent sa présence, la présence de Marc près de lui. Dehors, il se retourne sans cesse parce qu'il a l'impression qu'il est près de lui. Mais non, il ne voit rien. Il se dit que peut-être il est devenu un fantôme. Chez lui, il a l'impression que quelqu'un entre là chez lui et passe un moment là, dans ses affaires. Il voit ses objets déplacés, manque des choses, des tâches, des tiroirs ouverts, etc. Il se dit, il est là, il vient chez moi lorsque je n'y suis pas. Alors il met sur la table un mot avant qu'il s'en aille. Un mot pour Marc et pour lui dire qu'il veut le voir mais qu'il ne veut pas qu'il touche à quelque chose, à ces choses. Et il s'en va. Lorsqu'il revient, il voit que le mot est toujours à la même place. Mais il voit qu'il a été touché, légèrement froissé. Alors il sent que Marc est en vie, qu'il est près de lui et qu'il l'épie. Il l'a bien tué pourtant. Il a ressuscité. Marc sera toujours près de lui. Et lui porter la poisse. Toujours. Ils seront toujours ensemble. Toujours. Moi qui se tue lui aussi. Mais non. Devient invisible. Marc est devenu invisible. Marc est plus encombrant que vivant. Là, il peut faire tout ce qu'il veut. Je suis devenu sa chose. Mais si moi je me tuais, lui ne pourrait rien contre moi. Un jour, il se dit, pour le détruire, je dois détruire tous les écrits que j'ai faits sur lui. Il brûle tous les écrits qu'il avait écrits sur Marc. Et au matin, il les retrouve intacts, près de la cheminée, à terre. Épuisé, j'ai voulu le tuer, il n'est pas mort. J'ai voulu détruire ses étriqués. Il les a fait ressusciter. Que dois-je faire? Me tuer? Il décide d'aller se jeter dans le lac de Montrion. Alors, il est parti en voiture. Et part comme un fou. Il arrive en pleine nuit. Il sort de voiture. Et va vers la berge. Et se jette. Malheureusement, il n'arrive pas à se noyer. Parce que pour se noyer, il faut du courage. Et puis l'eau le remonte à la surface. Alors, épuisé, il sort de l'eau, se couche sur le ventre et pleure. tout à coup, il entend une voix qui lui dit « Ni toi, ni Marc ne pouvez mourir, parce que vous faites partie de l'éternel recommencement. Votre vie n'a pas de fin, comme elle n'a pas eu de début. Vous êtes à l'intérieur de moi, et vous êtes à l'intérieur de mon cerveau. Vous ne pouvez pas en sortir, comme tous les autres que j'ai créés. » Puis, Jean-Pierre s'endort. Il est réveillé au petit matin à cause du froid. Il se lève, va à l'hôtel, entre. Et monte à sa chambre. Monte à sa chambre pour se changer. Entre dans sa chambre. On frappe à la porte. Entrez. Entre. Marc. Il est surpris. Marc lui dit, tu es prêt? On part dans une demi-heure. Jean-Pierre ne dit rien. Il voit sa valise à terre, la prend et sort de la chambre. Descend les escaliers. Jean-Pierre voit Gilbert et Nathalie. Il dit à Marc, je vais leur dire au revoir. Et il descend devant. Marc est resté en haut. Il dit au revoir aux jeunes gens. Puis, les jeunes gens sortent. Il les voit jeter la pierre et entrer dans la voiture et s'en aller. Il dit à Marc, qui est en haut, qu'il a déjà vécu plus d'une fois cette scène. On prend un petit déjeuner, après, nous en retournons. Marc lui dit, oui, si tu veux. Puis, il descend vers lui. Ils vont à la salle à manger. Il retrouve la patronne. Jean-Pierre lui dit, du petit déjeuner, s'il vous plaît. Elle lui dit, pendant que vous étiez parti, j'ai aidé les jeunes gens. Je suis allé dans votre chambre pour ranger un petit peu et j'ai trouvé cette paire de ciseaux. Elle lui donne des ciseaux tachés de rouge. Elle est 8 ans. Il se dit, ce n'était pas un rêve. Il prend le ciseau en tremblant. Merci. Marc lui fait un clin d'œil. Et ils vont déjeuner. Une fois dehors, Jean-Pierre jette les ciseaux dans le lac. Marc lui dit, attention, le lac n'aime pas qu'on prenne pour une poubelle. Il décharge dans le cimetière. Puis, ils entrent dans la voiture. Et Marc met en route la voiture. Et il s'en retourne pour Lyon. Marc, en roulant, lui dit, tu vois, tu voulais pas venir. Tu as vu. Tu as vécu des choses intéressantes. Jean-Pierre lui dit, oui, bien sûr. Il se dit que ça serait bien passé, ces choses intéressantes. Et s'il n'a pas rêvé, alors comment a-t-il vécu tout ça? Et la voiture file, file. Hubert a fini cette petite histoire. Il ne reste plus qu'à la fignoler. Deux jours plus tard, il la présente pour la faire éditer à compte d'auteur dans une petite édition, une maison d'édition, imprimeur. Il fait faire 50 fascicules en papier de luxe et cartonné. Puis il donne un exemplaire à ses parents. Lui demande « Qu'est-ce que c'est ?» Il lui dit « Une petite histoire que j'ai écrite. » Ses parents le lisent. Maurice trouve le livre très bien. La mère est enchantée et elle dit à toutes ses amies que son fils est un grand écrivain. Elle demande à Gilbert des livres qu'elle doit donner à des amis. Charlotte lui donne de l'argent pour le dédommager. Ces dames le lisent. Elles disent qu'elles en ont le frisson. Organise une soirée pour ça. Jean-Jean a lu le livre et dit à Gilbert, c'est une très bonne nouvelle. Vautrin continue à écrire. Demande aussi un exemplaire.
Bonjour.
Et Nathalie et Julien l'ont lu. Julien le trouve très bien. Nathalie lui dit, je n'ai rien compris. Il lui dit, il n'y a rien à comprendre, tu dois te laisser bercer par l'histoire. Jean-Jules lui dit, votre histoire rappelle des choses. Le lac de Mont-Triomphe est très connu pour son côté mystérieux.
Vous êtes fait pour les grands espaces, la liberté.
Il est pour certains le centre du monde. Gilbert lui dit, je m'en doutais. J'y suis allé et... C'est assez extraordinaire.
Elle paraît faite pour vous, vous ne trouvez pas.
Et puis depuis que j'y suis allé, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent à l'intérieur de moi. J'ai vu des gens qui y sont. Puis il y a toujours ces deux jeunes gens et ces deux vieux. La patronne aussi. Et momifié. Drôle d'endroit pour y vivre. Puis Jean-Jules lui dit, et pour y mourir, quelquefois, on y mord. Mais on ne mord jamais vraiment lorsqu'on est un personnage de roman, n'est-ce pas?
C'est amusant. Nous-mêmes, nous avons...
Gilbert lui dit, oui, bien sûr.
Votre mari doit les connaître.
Vous avez mis dans cette histoire ce Marc. Très bien, très bien.
Est-ce que je peux vous demander un service? Je crois bien que j'ai perdu mon bracelet.
Au cours de la soirée, on fait lire l'œuvre à Pierre-Max Roussillon. Qui sait bien lire à haute voix, d'une façon très comédie française, année 1920. A été mis sur une estrade. Thank you.
fois que la chose a été faite, il a été congratulé.
Bonjour.
Pierre-Max dit à Gilbert. Moi aussi, j'ai écrit un livre. Un fascicule sur Achille, le chef de ma chorale, qui a créé cette célèbre chorale du lycée du Parc. J'y chante des négros spirituels. Le livre n'a pas encore été imprimé, mais bientôt, ça le tu dis. Vous nous le lirez. Pierre-Max lui dit, je le lirai qu'à des gens très intimes. Mathieu va vers lui et lui dit, tu as été merveilleux, mon petit. Pierre-Max lui dit, oh, qu'il est gentil, Mimi. Mathieu lui donne un baiser sur la joue. Les gens sont émerveillés devant toute cette tendresse. Charles leur dit, comme ils s'aiment, ces deux-là. Et tout le monde applaudit. On applaudit Pierre-Max et Mathieu, le couple le plus amoureux du monde.
Oh, tu es
vraiment beau.
C'est vrai que Pierre-Max est beau à côté de Mathieu.
Je me disais aussi que pour une Américaine, vous parliez notre langue sans accent. C'est amusant. Nous-mêmes, nous avons des cousins à New York. La banque Ginsburg. Votre mari doit les connaître.
Kurt, est-ce que je peux vous demander un service? Je crois bien que j'ai perdu mon bracelet. Il est...
Le temps passe. Maurice demande à Gilbert d'aller assister à l'expulsion de tout un quartier de Paris. Gilbert va avec les gens du service qui doit expulser. Il y a des cars de police, des pompiers, une équipe de maçons pour la démolition. Des cars pour amener les gens dans des zones, des ambulances. Voiture de huissier pour faire partir les gens. Le départ s'est fait le matin avant le lever du jour. On commence par encercler le quartier, ferme les rues, on met des barbelés électriques autour du quartier, des cars de police tout le tour. On coupe l'électricité, l'eau, le téléphone, le gaz. Puis, on entre dans le quartier. La police, les pompiers et les cars pour les faire partir. Gilbert est avec le service bureau. Une fois que tout est en place, que le quartier est bien encerclé, le quartier est un quartier populaire de vieilles maisons sans âge. À 6 heures du matin, entre dans les immeubles, aidés de la police. Un huissier, par immeuble, ce sont des hommes habillés de costumes noirs. Et porte des serviettes. Ils entrent dans l'immeuble, montent jusqu'au dernier étage. Frappent à des portes de l'appartement. Un homme petit maigre en pyjama ouvre, demande « Qu'est-ce que c'est ?» L'huissier lui dit « Huissier de justice, vous avez reçu l'ordre d'expulsion. » On vient vous chercher. Je lui dis, mais je ne peux pas. Je veux rester ici. Le midi, c'est impossible. Venez avec nous. La police lui braque sa mitraillette sur le ventre. L'homme, surpris, dit, bien, j'y vais. Et il s'en va. Il sort de l'appartement sans rien dire. Et l'huissier continue à visiter les appartements. Une fois que l'immeuble a été évacué, on amène les gens dehors. Des gens dans des cars avec fenêtres grillagées. Les maçons préparent pour faire exploser les immeubles. Ils mettent des explosifs un peu partout dans les murs. On tire un fil pour le mettre jusqu'au détenteur. Toutes les maisons du quartier vont exploser en même temps. Les maisons explosent.
Oh, je vais éteindre la mèche. C'est tout, viens avec nous. C'est plus sûr. Mais flamme-toi, idiot.
Des fois, certaines explosions se font difficilement. Les gens refusent de partir. Des fois même, la police trouve des familles. Les corps restent dans les immeubles. Les familles qui sont restées dans les immeubles, les fois que l'immeuble a explosé, on trouve des corps. Il y a des cris. Des insultes, des pleurs. On nous n'avons rien. Une femme crie, nous n'avons rien. Pourquoi nous enlever tout ce qui nous reste? Les enfants s'agitent, pleurent, se battent. Dans tous les gens, pour essayer de les mettre dans les cars. certaines personnes en profitent pour voler, chercher ce que les gens ont laissé comme objet. Ces voleurs se sont introduits dans le quartier juste avant qu'on y mette les barbelés. On embarque aussi les malades, les paralytiques, pour les amener au laboratoire Ricain Jeune Tout, qui s'en servira comme cobaye pour faire des expériences. Les jeunes squatteurs seront fusillés, fils de famille, Anna, qui joue aux pauvres. Gilbert regarde tout ça au milieu de cette foule, de ces cris, de ces tueries, ça le dégoûte. Il se dit que l'on attaque les gens qui n'ont rien et qui sont pauvres. Puis, une fois que le quartier est évacué, on fait partir les cars pour amener les gens dans des zones avec pour qu'ils puissent trouver des logements d'attente. Immeuble en bois. Une fois que le quartier a été évacué, on peut commencer à faire les explosions. On appuie sur la détonation pour faire exploser toutes les maisons.
Je vais éteindre la mèche. Tatou vient avec nous. C'est plus sûr.
Tous les immeubles explosent en même temps. puis, on fait venir les camions pour enlever toutes les... pour ramasser...
Toutes les voies d'accès au quartier ont été fermées.
Pour le ramassage. On a détruit pour éviter les squatteurs, les squats. Ensuite, on construira. Gilbert rentre au siège. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale.